Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Ouais, vraiment, moi, c'est vraiment un fait que je constate, c'est que la demande, elle devient de plus en plus forte. Les gens sont de plus en plus informés sur le fait qu'ils peuvent consulter une sexologue, que la santé sexuelle, bah, ça existe, et que justement, s'ils rencontrent des problèmes dans leur vie intime, il y a des personnes qui peuvent les aider. Je rencontre aussi de plus en plus de médecins qui vont parler plus facilement de ce sujet-là avec leurs patients et du coup qui vont référer plus facilement aussi. Je pense que vraiment le tabou autour de la sexologie est en train de petit à petit disparaître.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Salam alaikum wa rahmatullah, Zina.
Wa alaikum salam wa rahmatullah, Abdelrahman.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, tout va bien et toi?
Alhamdulillah, ça va. Alors Zina, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers.
Merci à toi.
Pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
Alors, la fameuse question d'introduction qui est toujours assez complexe. Donc, Zina Hamzaoui. Habitante à Bruxelles, née à Paris, d'origine tunisienne. De base, j'étais intéressée par les métiers de la santé, et notamment tout ce qui était en lien avec la grossesse et l'accouchement. C'était quelque chose qui me fascinait. Donc, je me suis dirigée vers les études de sage-femme, d'abord en France.
Ouais.
Donc, j'ai connu cette fameuse première année de médecine pour accéder aux études de sage-femme. C'était très compliqué pour moi et ça a même été soldé par un échec, chose à laquelle je m'attendais absolument pas. Mais bon, peut-être qu'on en reparlera après. Mais donc de là, j'ai décidé de venir en Belgique que je ne connaissais absolument pas. C'est-à-dire que je ne savais même pas, je connaissais vraiment personne ici, j'étais jamais venue. Et donc voilà, j'ai intégré l'école de sage-femme ici en Belgique.
Tu es venue seule ou tu t'es mariée entre-temps?
Non, 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 je suis venue seule. Donc ça, c'était une bataille avec la famille pour pouvoir justement quitter la famille, quitter Paris. Tu vois, les parents qui te disent « mais je ne comprends pas, tu as eu un bac S, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu restes en France, il y a plein d'études en France, pourquoi absolument vouloir partir ?»
Ouais.
Donc c'était vraiment une longue période de négociation. Puis il y a eu une trêve.
C'était quoi les avantages? Pourquoi tu voulais aller en Belgique?
En fait, ce qui se passait, c'est que comme j'avais raté la première année de médecine, si je ratais la deuxième fois, je n'aurais pas pu en fait repasser le concours une troisième fois en France,
ouais.
Dans toute l'Europe pendant plusieurs années. Donc, je ne voulais pas prendre ce risque-là.
Ah, ça s'étend à l'Europe.
Et vraiment, ouais, ça s'étend à l'Europe, au niveau de l'Union européenne. Et donc, moi, je voulais vraiment faire sage-femme. Et je me suis dit, voilà, je ne vais pas prendre le risque de refaire cette année, sachant que je l'avais très mal vécu. Et puis, voilà, il y a eu un autre événement personnel qui fait que voilà, j'avais vraiment besoin de partir. Et voilà, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Je rencontre une autre étudiante dans l'amphithéâtre qui me dit « Mais toi, tu veux faire sage-femme, qu'est-ce que tu fais ici ?» En fait, va en Belgique, c'est beaucoup plus simple.
Mmh.
Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'apprends que sa sœur est en Belgique aussi. Et puis, je l'appelle et puis elle me dit « Voilà, va, tu... » Enfin, Marhababik en Belgique, vraiment, c'est un peuple très, très ouvert d'esprit. C'est beaucoup plus agréable qu'à Paris.
Ouais.
Et donc, voilà. 31 août 2009, me voici arrivée à Liège, donc pas à Bruxelles dans un premier temps, à Liège, où j'entame mes études de sage-femme. Et donc là, je découvre vraiment la vie solo. Donc, j'ai mon petit studio. Ici, on appelle ça un cote étudiant. Mon petit studio. Donc, je découvre vraiment la vie d'étudiante loin de sa famille. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va te développer beaucoup de compétences. En termes d'organisation, de responsabilité, de gérer tes finances, de gérer ton temps. Si tu ne te réveilles pas, il n'y a personne qui te réveille. Si tu ne fais pas manger, il n'y a personne qui ne fait pas manger, etc. Donc vraiment, c'est ces compétences d'autonomie qui font que voilà, tu sais pourquoi tu es parti, tu sais pourquoi tu es là, tu sais que tu as du limite batailler pour venir. Donc, tu n'as pas le droit en fait, d'échouer et de revenir sans diplôme. Et durant mes études, je découvre en fait, le domaine de l'intimité. J'ai des femmes qui viennent me poser des questions. Elle a dit, Zina, t'es en étude de sage-femme, moi j'ai tel problème, je ne sais pas vers qui me diriger. Et là, je découvre en fait vraiment qu'il y a tout un domaine que je ne connaissais absolument pas. qui est la sexologie. Et puis, il me dit, c'est un truc de fou. Enfin, moi, jamais j'aurais cru me lancer là-dedans, tu vois. C'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Et encore moins, je pense, il y a 10-15 ans. Et donc, là, je me dis, OK, tu sais quoi, je vois que j'ai des facilités pour répondre à ces femmes, que je suis à l'aise avec le sujet, malgré le fait que je ne sois pas mariée et que je n'ai pas encore fait de cursus en sexologie, tu vois. Je sentais vraiment que voilà, j'avais facilement des réponses aux questions, je faisais des recherches et ça me passionnait. Vraiment, ça complétait le fonctionnement du corps. Et là, je découvre toute la notion de santé sexuelle. Et puis, à ce moment-là, il y a des gens qui me disent, non, mais t'es dingue ou t'es dingue, en fait, de partir sur cette voie. Enfin, c'est un chemin, ça se fait pas. Les gens de chez nous, ils vont jamais oser venir consulter pour ça. Et on n'a jamais entendu parler de ça, en fait. Tu vois, clairement, vraiment, c'est compliqué au début. Et voilà, la vie fait qu'au bout d'un moment, bah, je suis diplômée sage-femme en 2013. Et directement, je me forme, en fait. Je découvre une formation en thérapie de couple et en sexothérapie. Et puis, je me lance. Et durant cette année-là, justement, je rencontre mon mari. Donc, je rencontre mon mari. Et du coup, mes parents comprennent que finalement, je ne vais pas revenir à Paris.
C'est dur.
Donc, ma mère, je me rappelle, elle m'a dit, ouais, tu m'as arnaqué, tu m'as bien eu. Tu m'as dit que tu partais juste pour 4 ans, que tu allais revenir. Je dis, voilà, mais Maktoub, en fait, c'est... Et là, en fait, je découvre vraiment que on a beau vouloir contrôler, on a beau vouloir avoir nos plans, ben, subhanallah, les plans de Dieu, ben, ils sont différents et ils sont bien meilleurs. Et c'est là que, juste après, donc, je me marie dans la même année. Et du coup, ben, je quitte Liège pour venir m'installer à Bruxelles. Et durant cette installation, bah voilà, je découvre une nouvelle ville où je connaissais personne. Donc, tu sais, c'est un nouveau départ une deuxième fois, si tu veux. Donc, mais bon, comme j'avais déjà développé, on va dire, cette capacité à m'adapter à Liège, j'ai pu facilement m'adapter à Bruxelles, alhamdoulilah. Et vraiment, les choses, elles ont été facilitées. Au début, je me rappelle, j'ai commencé dans un tout petit cabinet. Je venais pour une patiente tous les X jours. En parallèle, je faisais de l'intérim. J'ai fait des soins infirmiers. Parce que, en fait, en Belgique, quand tu es diplômée sage-femme, c'était valable jusqu'en 2014-2015, je pense. Quand tu es diplômée sage-femme, en fait, on fait le double cursus en même temps. On fait et infirmière et sage-femme. Et du coup, bah, en fait, je faisais des soins infirmiers le temps que ma patientèle sage-femme, elle se développe. Parce que de base, je voulais vraiment bosser à l'hôpital. Ça ne s'est pas fait. C'était priorité bah, aux étudiantes de Bruxelles. Moi, j'avais fait mes études à Liège. Et puis, c'était une année où on était beaucoup de diplômés. 2013, c'était une année où on était beaucoup de sages-femmes. Et du coup, je me dis, tu sais quoi? En fait, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Je me dis, si l'hôpital, c'est une voie qui est fermée, eh bien, mets-toi en libéral. Donc là, je me lance en libéral. Et la rebelote, on me dit, mais t'es complètement dingue. Tu connais personne, t'as pas de réseau. Te lancer directement en libéral, t'auras pas de salaire pendant un petit temps. Et c'est vrai. C'était difficile, on va dire, financièrement dans un premier temps. Genre, tu bosses, mais pendant près d'un an, bah, t'as pas de salaire parce que tu dois payer tes charges, tes cotisations, etc. Mais ça a été franchement un vrai tremplin au niveau professionnel. C'est-à-dire que de là... Bah après, j'ai pu changer de cabinet, j'ai développé vraiment ma patientèle en sexothérapie et thérapie de couple. Et je m'épanouissais vraiment dans ces différents rôles de sage-femme, de sexologue et de thérapeute de couple. Et tout au long de ces années, bah, j'ai continué à me former en parallèle.
Donc je t'ai mis en libéral dans tout, hein. Enfin, côté
Dans tout,
sage-femme, sexuel, donc
ouais.
c'était
Autonomie à 100%. Mais voilà, franchement, quand tu ne te poses pas trop de questions et que tu ne te dis pas, ouais, ça va être compliqué, je ne vais pas y arriver, etc., ben en fait, les choses, elles se mettent facilement en place. Tu vois, tu ne sais pas comment. Il y a des personnes qui viennent sur ton chemin et qui te facilitent les choses. Et je pense que voilà, le fait aussi de vraiment avoir cette confiance en Dieu, elle permet de beaucoup relativiser et de beaucoup moins se mettre la pression, tu vois, de ne pas se dire, voilà, est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Franchement, alhamdoulilah, je me suis pas posé ces questions, tu vois. Je me dis vraiment, je bosse. Après, à côté de ça, c'est vrai que le fait d'être mariée, bah, je me dis, je ne suis pas responsable financièrement aussi, tu vois. J'ai
T'en
ce
profiter.
confort-là, merci à mon mari. Mais il faut savoir aussi que très vite, bah, on a eu notre premier enfant. Et donc, ça aussi, tu vois, jongler entre entrepreneur, épouse et maman. C'est pas évident, mais c'est possible, tu vois. Donc,
Ouais.
ça aussi, ça,
Tu as arrêté ton activité pendant un petit moment, du coup?
même pas, tu sais, je suis genre la femme qui bosse jusqu'au 9e mois et qui reprend 4 mois après l'accouchement. Mais oui, il y a des moments où vraiment je diminuais fortement mon temps de travail, mais j'arrivais pas à arrêter parce que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis vraiment. M'épanouis vraiment, et donc m'arrêter complètement, pour moi, c'était limite un non-sens et je me faisais plus de mal qu'autre chose. Même si, voilà, par exemple, à ma dernière grossesse, donc on a eu 3 enfants, à ma dernière grossesse, j'ai dû m'arrêter complètement, quasiment toute la grossesse. Parce que voilà, il y a eu des soucis de santé et à un moment donné, ton corps, il te force à arrêter. Et c'est bien aussi, des fois, de pouvoir vraiment vivre ces moments-là sans se dire, voilà, le boulot à tout prix, le boulot est une priorité. Chose à laquelle la société actuelle, elle nous invite fortement, nous les femmes.
Ouais.
Donc voilà, donc on va dire parcours un peu imprévu malgré moi, mais alhamdoulilah, très très heureuse de ce parcours-là, vraiment.
Donc actuellement dans ton activité, tu as un focus plus sur une des activités côté sage-femme ou sexologue, thérapie de couple. C'est quoi ton focus?
Alors, au fil du temps, donc au début, j'étais surtout sage-femme. C'était vraiment surtout ça qui occupait la plus grande partie de mon temps. Et au fil des années, la sexothérapie a pris le dessus
Ouais.
pour plusieurs raisons. Déjà, personnellement, c'était un domaine dans lequel je m'épanouissais plus que sage-femme. Je trouvais que ça plus challengeant de recevoir des couples, des célibataires, des adultes seuls pour justement les aider à comprendre leurs problématiques intimes. Et aussi parce que des sexologues, il y en a beaucoup moins que des sages-femmes.
Ouais.
Et des sexologues musulmanes, il y en a encore beaucoup moins que des sexologues tout court. Donc,
Ouais.
la demande était tellement importante que petit à petit, vraiment, mon travail de sexologue, il a pris le dessus.
Là, ça va faire quoi, 8-9 ans? Est-ce que tu sens qu'en dehors du fait qu'il n'y a pas beaucoup de sexologues musulmanes, la demande augmente ou il y a une plus grosse sensibilisation dans tous les cas?
Ouais, vraiment, moi, c'est vraiment un fait que je constate, c'est que la demande, elle devient de plus en plus forte. Les gens sont de plus en plus informés sur le fait qu'ils peuvent consulter une sexologue, que la santé sexuelle, bah, ça existe, et que justement, s'ils rencontrent des problèmes dans leur vie intime, il y a des personnes qui peuvent les aider. Je rencontre aussi de plus en plus de médecins qui vont parler plus facilement de ce sujet-là avec leurs patients et du coup qui vont référer plus facilement aussi. Je pense que vraiment le tabou autour de la sexologie est en train de petit à petit disparaître. Et du
Ouais.
côté médical, ça veut dire que les professionnels de la santé vont plus facilement référer. Et du côté de monsieur et madame tout le monde, bah, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux livres, ce qui fait que justement les gens découvrent ce domaine-là, ils se disent, OK, le jour où j'ai un problème, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour m'accompagner.
Ouais. Et dans tes sessions de sexologie, je sais pas si ça s'appelle comme
Ouais,
ça.
non, ça, ouais.
Tu parles qu'avec la femme ou au couple? Ça se passe
Au
comment une
couple,
session?
donc ça va vraiment dépendre des problématiques. Parfois, il y a des hommes seuls, par exemple, qui vont consulter, donc là, ça se passe plus souvent en ligne, même si je travaille dans un centre pluridisciplinaire, c'est-à-dire voilà, on est plusieurs professionnels de la santé à consulter. En général,
Ok.
quand il y a des hommes, bah, je préfère consulter en ligne. C'est voilà, c'est une question de confort pour eux et pour moi. Des fois, il y a des hommes qui vont consulter seuls. Mais très souvent, on dirait la grande majorité de ma patientèle, ce sont des femmes qui viennent très souvent seules la première fois. Et quand elles sont mariées, au bout d'un moment, je vais leur demander de ramener leur mari. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de bénéfices à consulter en couple. Parce que justement, on va voir qu'il y a pas mal de problèmes de communication au sein du couple qui vont faire que le fait de venir voir une personne externe, une personne professionnelle de la santé, ça va venir, tu vois, vraiment prendre. On va prendre de la hauteur et on va venir, tu vois, un petit peu défaire tous les nœuds qu'il y a au niveau de ce couple et sans se sentir jugé, vraiment avec de la bienveillance. Pour moi, le mot d'ordre, c'est vraiment la bienveillance dans la prise en charge. Et très souvent, les femmes, elles viennent seules la première fois pour vérifier comment ça se passe, tu vois. Parce que voilà, les gens ne savent pas forcément comment se passe une séance en sexothérapie. Et une fois qu'ils comprennent que voilà, vraiment, on peut parler de tout sans forcément nommer les choses. Tu vois, ça, c'est aussi une subtilité qui va se développer avec l'expérience, qui va faire que les gens, ils vont être très à l'aise. Dernièrement, un couple où l'homme, il disait, c'est pas possible, enfin, je pensais pas être aussi à l'aise dès le premier rendez-vous pour parler avec ma femme de cette manière. Et en fait, ils se rendaient compte que entre eux, il y avait tellement de gêne que bah, leurs problèmes, ils se sont installés finalement avec le temps, mais ils n'avaient jamais osé réellement défaire, on va dire, toutes ces couches de, tu vois, de hachoma, de trop de respect, etc. Et
Oui,
justement,
beaucoup de
d'avoir
non-dits.
beaucoup, beaucoup de non-dits, beaucoup de non-dits, et de, tu vois, de méconnaissance, d'interprétation négative, etc. Donc, c'est le but en sexothérapie. Des fois, c'est une séance, hein. On remet juste les choses en place enfin, concernant un sujet précis. Des fois, c'est une thérapie qui va passer, bah, vraiment une thérapie sur plusieurs rendez-vous. Des fois, c'est sur un an, avec des rendez-vous de plus en plus espacés. Mais voilà, c'est surtout les femmes qui viennent consulter. On le voit aussi, ça, c'est toute culture confondue. Les femmes vont plus chercher des solutions ailleurs, alors que l'homme va essayer de régler un problème de lui-même. Il va avoir besoin de temps. Il n'aime pas, en fait, faire appel à d'autres personnes. Mais ici, des fois aussi, il y a des hommes qui ont du mal à venir parce qu'ils se disent, bah, c'est une femme qui porte le hijab, limite qui a notre âge, voire plus jeune parfois. Ça me dérange un peu de venir lui confier nos problèmes. Mais quand ils viennent et que vraiment, voilà, on place le cadre, ils se rendent compte que pourquoi on a autant attendu finalement.
Au final, c'est du temps perdu. À ton niveau personnel, donc tu as aussi des grossesses. J'imagine que souvent, souvent les éléments déclencheurs où il peut y avoir des soucis au niveau des couples, c'est la grossesse. Est-ce que toi, à ton niveau, le fait d'avoir eu plusieurs grossesses, tu as eu 3 enfants avec Balek, ça a changé aussi la perspective, ça t'avait évolué par rapport à ça?
Ouais, c'est vrai que bon, on ne doit pas forcément vivre une situation pour pouvoir l'accompagner. Comme je dis souvent, les psychiatres, ils n'ont pas besoin d'être schizophrènes pour accompagner des personnes qui souffrent de schizophrénie. En tant que thérapeute de couple et sexologue, on ne doit pas forcément souffrir de ces problématiques qu'on accompagne pour bien les accompagner. Mais c'est vrai que la grossesse, c'est un moment tellement unique dans la vie d'une femme, que ce soit une grossesse qui a donner lieu à un enfant en bonne santé à la naissance, comme une grossesse qui a été arrêtée et qui a donné lieu à une fausse couche. Ça aussi, hein, le fait de passer par ces étapes-là, ça permet de mieux comprendre les femmes qu'on accompagne, mieux comprendre aussi les couples, justement, les différentes étapes qu'ils vont traverser. Et c'est vrai que les avoir vécues, déjà, c'est très rassurant pour les personnes que j'accompagne. Tu vois, souvent, c'est une question qu'on me pose. Oui, mais je sais pas si vous avez des enfants, mais... Je dis oui, j'en ai trois, j'ai aussi vécu des fausses couches. Et là, d'un coup, les femmes, elles vont se sentir rassurées, tu vois, de OK, en fait, c'est pas juste de la théorie, c'est quelque chose que cette femme a vécu. Et donc, il y a plus de chances qu'elle me comprenne, même si toute grossesse est unique. Et même d'une femme à l'autre, chaque grossesse, justement, est vécue différemment. Mais c'est vrai que le fait, moi-même, de m'être mariée, on va dire plutôt à un âge jeune, on s'est mariés, enfin moi j'avais 24 ans, le fait d'avoir eu trois grossesses, bah, clairement dans mes prises en charge, ça va impacter aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va rassurer les gens parce que quand ils vont me dire, oui, mais voilà, Zina, tu nous dis d'avoir du temps à deux sans les enfants, c'est compliqué. Et bah, je vais pas hésiter à expliquer ce que nous, on va dire, au sein de notre couple, on met en place. Par exemple, le fait de faire appel à la famille, de faire appel à une babysitter, de pouvoir libérer du temps, bah, quand les enfants dorment, de s'organiser justement pour que les enfants puissent dormir à des heures qui facilitent notre organisation de couple. C'est du concret, tu vois. C'est pas de ah ouais, il faudrait que, et sachant que moi, je vis pas tout ça, tu vois. Et je trouve que, et ça, c'est prouvé, hein, dans différentes études, c'est que le patient, il a besoin de se reconnaître dans la personne qui l'accompagne. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les gens vont plus facilement vers quelqu'un qui leur ressemble, que ce soit au niveau de, en termes de, on va dire, en termes d'origine, mais aussi en termes de religion, tu vois. Et surtout en sexothérapie, on va voir que c'est fondamental de pouvoir avoir une prise en charge qui tient compte justement de ce bagage religieux, parce qu'il n'est pas à négliger, que du contraire.
Alors justement, tu viens de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet que je voulais aborder. En comparaison avec une sexologue classique, qu'est-ce que ça apporte le fait d'apporter la religion dedans, dans la manière dont tu t'exprimes, les sujets que tu abordes, etc.
Alors, Déjà, d'entrée de jeu, quand les gens vont venir, je vais leur demander, est-ce que justement on va dire ce bagage religieux, est-ce qu'il est important pour eux? De quelle manière est-ce qu'ils en tiennent compte? Quelle est la place de la pratique religieuse dans leur quotidien? Parce que moi, pour moi, c'est en tout cas pour les personnes croyantes, c'est une dimension que j'intègre parfaitement dans mes prises en charge. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de santé et de santé sexuelle si je ne parle pas de santé spirituelle. Tu vois, si les gens me disent, moi, je crois en Dieu, je crois qu'un jour on va mourir, voilà, je suis musulmane ou musulman, bah, quelle est la place de ta prière dans ton quotidien? Est-ce que tu fais du dhikr? Est-ce que tu fais des doigts? Est-ce que tu fais des sadaqas? Quelle est cette place-là dans ton quotidien? Parce que ça va venir te nourrir, en fait, d'une certaine manière. Et après, en fait, je dis pas, par exemple, genre, je fais pas un cours sexualité et islam. Absolument pas, tu vois. Je vais plus. D'ailleurs, c'est très, très rare, finalement, que j'en arrive à devoir expliquer des concepts, sauf quand les gens, et surtout les femmes, viennent avec cette idée que chez nous, chez les musulmans, on ne parle pas d'intimité chez la femme, que la femme, on ne se soucie pas de son désir, de son plaisir. Absolument pas, en fait. Donc, je vais venir recadrer ça avec des exemples, avec des versets, avec des hadiths du prophète sallam qui vont venir justement les rassurer et venir, en fait, corriger des croyances qu'elles avaient et expliquer justement la différence entre l'éducation culturelle, traditionnelle, et l'éducation religieuse. D'accord? Et souvent, il y a eu une petite tchermila, comme je dis, dans tout ça. Il y a eu un petit mélange dans tout ça qui fait que il y a beaucoup de femmes qui pensent que bah, voilà, elles doivent subir leur vie intime, que c'est honteux de s'amuser avec son mari. Et en fait, même avec les maris, hein, souvent, ils ont cette image que leur femme, c'est vraiment une personne qui est mise sur un piédestal, qui est inatteignable, qui est respectée exclusivement dans son rôle de maman, mais absolument pas dans son rôle en fait d'épouse. Il n'y a pas de complicité entre eux, il n'y a pas de séduction entre eux. Et ça, très souvent, en fait, ça les rassure, et les hommes et les femmes, de pouvoir parler de ce sujet-là, tout en maintenant un cadre vraiment de respect et de pudeur, parce que ce que je vais constater, c'est que souvent, les gens, ils ont quand même essayé de faire des recherches avant de venir, tu vois. Mais quand tu vas sur Internet et que tu fais tes petites recherches de ton côté, tu peux très vite tomber sur du contenu, on va dire, dans lequel il y a pas de valeur, en fait. Il y a pas de respect de l'individu. Il y a des images qui sont forcément imposées. Il y a des conseils qui sont pas en adéquation avec nos principes religieux. Et c'est vrai que le fait de pouvoir venir et de se dire, OK, là, on est dans un cadre où il y a du secret professionnel, où on peut parler, où aussi, tu vois, on peut dire des problèmes qu'on a rencontrés, voire même des péchés qu'on a commis. Et ça, je pense qu'on pourra prendre le temps peut-être de développer ce point-là, mais les gens souvent ont du mal de se dire, oui, mais voilà, c'est un péché que j'ai commis, c'est derrière moi. Parfois, c'est encore présent, en fait. Mais tu vois, on dit toujours, voilà, quand tu commets un péché, il faut pas en parler. Et là, le fait de replacer ça dans un cadre, on va dire, de santé, dans un cadre médical, paramédical, en fait, les gens vont comprendre pourquoi est-ce que, malgré eux, ils reviennent à ce péché-là. Pourquoi est-ce que ce péché a été commis? En fait, le fait de comprendre, ça permet de ne plus se mettre dans ces situations de danger. Et là, quand je vais parler de péché, on va dire, en niveau religieux, ça va être le fait de tromper son époux, son épouse, le fait de regarder du porno de manière, que ce soit ponctuelle ou quotidienne, le fait de s'adonner à des pratiques, à la masturbation quotidiennement ou même ponctuellement quand on est marié ou quand même quand on est célibataire, parce que voilà, c'est un sujet qui est très sensible, donc il est très mal compris. Et donc, le fait d'expliquer qu'est-ce qui, dans le cerveau, fait que la personne, elle va être amenée à cette pratique-là, ça permet à la personne de comprendre, en fait, ce qui se passe, et justement de mettre des choses en place pour ne pas, en fait, continuer dans cette on va dire dans ce fonctionnement-là. Et ça aussi, je trouve que au niveau de la communauté musulmane, par rapport à la question de la sexualité, très longtemps, les discours, les prêches, ils ont été dans, voilà, ça c'est haram, sans expliquer le pourquoi, le comment. Et du coup, en créant beaucoup de culpabilité, chez les personnes qui vont, malgré elles, on va dire, s'adonner à ces pratiques, que ce soit la masturbation, le visionnage de pornographie, le fait d'être sur des chats sexuels, le fait d'être dans des pratiques sexuelles de manière active avec des vraies personnes, parce qu'on va distinguer aussi le virtuel et le réel, le fait de ne jamais en fait nommer ces problèmes, d'expliquer pourquoi ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, en intégrant aussi on va dire la notion de Taoba, c'est fondamental en fait, et de dire voilà que c'est humain, que chaque individu peut malheureusement avoir ces pratiques-là, et il faut jamais dire ouais moi jamais, parce que au cabinet j'ai toujours des gens qui disent oui moi je pensais jamais que j'allais faire ça, et justement expliquer le pourquoi du comment. Et vraiment, quand on vient avec des explications, sans jugement, bah la personne, elle se responsabilise, elle comprend, c'est hyper apaisant, et elle ressort en fait avec des clés pour ne plus en fait subir sa vie intime, mais pour la vivre dans le cadre qui lui convient.
D'accord. C'est super intéressant. On va revenir sur certains aspects, je pense. J'ai noté plusieurs choses pendant que tu parlais. Tu as donc essayé de faire le lien avec l'aspect religieux chez les patients qui le souhaitent, bien sûr. Est-ce que tu as comment est-ce que tu fais pour faire le lien? Tu as une formation spécifique? J'imagine qu'il n'y a pas de formation spécifique sur ça. Donc comment tu as fait toi pour
Alors, moi, je n'ai pas trouvé de formation spécifique entre sexualité et islam aujourd'hui, même si aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs cursus psychologie et islam qui sont
Psychologie
hyper
islam,
intéressants.
oui. Ouais, ça on en voit.
Et Inch'Allah, j'aimerais bien l'année prochaine intégrer d'ailleurs celui de Cambridge au Royaume-Uni.
Ah oui,
Aux...
avec Cambridge, avec
Ouais,
Dr.
la semaine
Rothman.
Cambridge College.
Ouais, Dr.
Et.
Rothman, c'est. Ouais,
Je pense, ouais, je pense que c'est ça.
je vois celle-ci, là. Ouais, c'est l'un des meilleurs, je pense.
Et ben voilà, je voulais m'inscrire cette année, mais ça s'est pas fait, donc l'année prochaine, Inch'Allah. Et là, on va voir que voilà, psychologie et islam, il y a beaucoup de matière. Et en fait, sexualité et islam, il y a aussi beaucoup de matière, mais il n'y a pas de cursus, en tout cas, j'en ai pas trouvé de cursus exclusivement sur ces thématiques-là. Donc, comment je me suis formée? Bah voilà, j'ai un imam enfin, qui est spécialisé en fiqh, avec lequel pendant plusieurs années on a travaillé plusieurs questions justement liées à l'intimité, en tout cas celle qui revenait le plus souvent au cabinet. Il y a ça, il y a aussi, je me suis beaucoup appuyée sur le livre d'Abu Shurqa, donc l'encyclopédie de la femme en islam, dans lequel il y a en fait tout un tome sur l'éducation sexuelle des époux. Et là, on va voir que voilà, c'est. Je disais, c'est la sexologie il y a 14 siècles, en fait. C'est vraiment avant-gardiste par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de matière, en fait, dans le bagage islamique, qui, pendant longtemps, a été mis de côté. Et encore, quand je veux dire, il y a longtemps, on va dire, ces dernières décennies, ça a été mis de côté. Et à la place, il y a eu un discours très moralisateur. Tu vois, la femme doit absolument obéir à son mari. La sexualité, c'est exclusivement finalement pour l'homme. Beaucoup d'en fait de messages donnés par des hommes à des femmes ou donnés par des hommes à des hommes en mettant de côté, en occultant bah, la santé sexuelle de la femme. Tu vois? Et ceci, on va voir que ça va être, en tout cas, ça peut être une source de grande frustration chez les femmes. Et du coup, bah, par effet, on va dire, par effet, bon, par réaction, ça va donner aussi de grosses frustrations chez l'homme. Parce que, en tant qu'homme, être avec une femme qui n'est pas épanouie dans sa vie intime, bah, c'est hyper frustrant. Donc, vraiment, par rapport à la formation, j'espère, Inch'Allah, que dans les prochaines années, il y aura un cursus sexualité et islam qui sera développé. Peut-être qu'en Malaisie, il y en a, mais ça va être vraiment quelques modules. Tu vois, bien spécifique. Et voilà, peut-être qu'un jour j'irai là-bas pour ça. Mais ça aussi, hein, tu vois, c'est pour ça que, avec ma formation, on va dire, occidentale, j'ai volontairement complété par mes recherches et personnelles et avec deux imams ici en Belgique pour travailler ces questions. Mais c'est clairement, si on veut aller beaucoup plus loin, il faudrait développer un cursus lié à ça. Mais la demande est tellement importante que je ne peux pas en fait me dire, ok, tu sais quoi, on fait pause en consultation, en sexothérapie, et on va d'abord développer tout un cursus lié à ces questions. Parce que de toute façon, le principal est connu aujourd'hui. Tu vois? Le reste, ce serait vraiment pour des cas bien spécifiques, et ce n'est pas des choses que je rencontre régulièrement.
Ouais. Est-ce que tu vois moi j'ai noté pas mal de choses, hein. Donc tu parlais vraiment des sujets, je pense, qui sont tellement peu abordés que je vais en profiter. Est-ce que tu vois des problèmes en termes d'intérêt, enfin des questionnements différents selon les générations? Tu parlais tout à l'heure de des personnes et des hommes qui, voilà, qui faisaient la chouma, qui mettent leur femme dans un piédestal. J'imagine que ça, c'est plutôt des générations plus âgées. Je sais pas, parce que voilà, tu as des différences de problématiques.
Alors, en fait, on voit de tout dans toutes les générations, parce que bah, l'éducation, elle est aussi importante. Tu vois, quand tu es un jeune homme qui a vécu dans une famille où la maman a été sur un piédestal et qu'on t'a toujours considéré comme voilà, un homme qui est ultra, ultra, ultra respectueux, vraiment que la femme, même parfois, c'est attention, ça peut être. Des fois, une femme, ça peut être un danger, ça peut être une source de tentation. En fait, et donc, t'es dans ce paradoxe de une femme doit être respectée parce que ma mère est respectable, tu vois, et une femme peut être ma source de tentation. Et donc, quand cet homme-là se marie, il sait pas un petit peu sur quel pied danser, tu vois. Il est partagé entre ma femme, je la respecte parce que voilà, je l'ai épousée parce que justement, elle a plein de valeurs et je veux que ce soit la mère de mes enfants, tu vois. Et ce truc-là de je trouve ma paix auprès d'elle aussi. Et d'un autre côté, je meurs d'envie de vivre une vie intime avec elle, mais je ne m'autorise pas ça. Tu vois? Je ne m'autorise pas ça, je vais justement me freiner, je vais me censurer, je vais me priver parce que j'estime que ce n'est pas légitime. Et c'est tout en fait le concept de l'éducation à l'abstinence qui est problématique aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... À force d'avoir eu des discours moralisateurs, ça c'est haram, ça c'est interdit, ça c'est très grave, ça on ne fait pas ça chez nous, etc. Quand on n'explique pas le pourquoi c'est haram, tu vois, pourquoi est-ce que justement c'est pas juste interdit, pourquoi c'est sacré, pourquoi est-ce que ça se vit dans le mariage, bah, le jour où ces gens se sont mariés, en fait ils ne s'autorisent pas à vivre cette vie intime. Parce que ça a toujours été avec des notions d'interdit, de danger. Et donc, il y aura toute cette culpabilité. Dès que les gens vont avoir juste du désir, il va y avoir de la culpabilité. Alors que, par exemple, on va expliquer que le désir, bah, ce n'est pas quelque chose qui est forcément volontaire. Et donc, si c'est vraiment involontaire, ce n'est pas mal. Et quand on est marié, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est quelque chose de très bien. Et là, tu vois, c'est des notions que bah, on n'a pas développées au sein des familles. Et ça, c'est toute culture confondue. Hein. Ce n'est pas propre à chez nous, genre chez les arabo-musulmans, turco-musulmans. C'est toute culture confondue. Parce que j'ai aussi des personnes non musulmanes qui viennent consulter et qui me disent, en fait, bah, j'ai pas eu d'éducation sexuelle positive, d'éducation sexuelle saine. Donc, parfois, tu vois, souvent, je m'entends, ouais, mais chez nous, c'est comme ça. Non, non, déjà, il faut arrêter avec ce truc de chez nous, on n'a que des problèmes. C'est absolument pas vrai. Alhamdoulilah, et ça, je le vois lors des... Lors des conférences, des ateliers, il y a plein de couples qui vont très bien, qui sont tout à fait épanouis, qui sont heureux. Ça, c'est important de le dire aussi parce que ce serait dommage que les gens, en écoutant cet échange, se disent, ouais, purée, une fois mariée, on n'a que des problèmes. Absolument pas. Mais voilà, en tant que thérapeute de couple et sexologue, bah, j'ai que les gens qui ont des problèmes, c'est normal. Il y a pas des gens qui ont une belle vie facile, qui vont venir me voir. Voilà, je voulais juste venir vous dire que tout va bien, merci pour ce que vous faites. Non. Donc, je parle souvent des problèmes parce que c'est ce que je rencontre dans le quotidien. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui vont très bien et c'est important de le rappeler. Donc, pour revenir à ta question, Abdelrahman, sur est-ce qu'il y a des problèmes différents en fonction des générations, c'est vrai qu'on va voir que les gens qui ont autour de la cinquantaine qui viennent, ce sera plus pour des problèmes d'ordre mécanique. Vraiment, santé sexuelle très, très, on va dire, très corporelle. Voilà, les troubles qui vont se développer avec le temps. Des troubles soit exclusivement féminins, soit des troubles exclusivement masculins. Donc, si on prend les troubles féminins, ça va être des problèmes de douleur qui viennent avec le temps, avec la ménopause notamment qui va s'installer. Et chez les hommes, bah, il va y avoir des troubles d'érection, des troubles d'éjaculation, voire des troubles du désir qui n'étaient pas présents auparavant. Par contre, chez la jeune génération, Juste, je vais compléter aussi pour la génération autour de la cinquantaine, ça va aussi être des problèmes intimes qui sont en fait le fruit de problèmes relationnels, parce que souvent c'est l'âge auquel leurs enfants quittent la maison.
Oui.
Tu vois? Et donc, ils vont se rendre compte que pendant toutes ces années, des fois pendant 20-30 ans, leur couple ne tenait que grâce aux enfants. Et que maintenant qu'ils se retrouvent seuls, ben, en fait, ils se sentent un peu perdus.
Ouais,
Ils
il y
ne
a un
savent pas
vide qu'ils savent pas
comment.
remplir.
Exactement, ils ne savent pas comment remplir ça, ils ne savent pas comment nourrir cette relation amoureuse, cette relation intime, parce que jusqu'alors, c'était vraiment une relation parentale et il y avait une intimité parce qu'il fallait, tu vois, il fallait, mais pas parce qu'il y avait de l'envie. Donc ça, c'est vraiment plus des problèmes pour les générations, on va dire, de plus de 50 ans. Pour les plus jeunes, il faut savoir que la plupart des personnes qui vont consulter ont autour de la trentaine, donc c'est vraiment, allez, 26, 27, jusqu'à 40 ans, plus ou moins, c'est vraiment cette tranche d'âge-là. Et là, ça va être des problèmes de désir, de plaisir, liés soit à des rythmes de vie infernaux. Je ne sais pas si on dit infernaux ou infernal, je ne sais pas, mais bon, voilà, vous m'avez
Importe.
compris. Vraiment une pression au quotidien, le fait de vouloir être sur plusieurs fronts. Et donc, leur vie intime en prend un coup. Et c'est là aussi, d'ailleurs, que je vais souvent parler de la vie spirituelle. Tu vois? Si dans leur rythme à eux de quotidien, il n'y a pas de place pour une spiritualité de qualité. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de prier, qui ne prennent pas le temps de se poser, comme je disais tout à l'heure, qui ne prennent pas le temps rien que de faire du décret, tu vois, de manière cool, en fait. On n'est pas pressé. Bah, quand déjà il n'y a pas ça, c'est normal que leur vie intime, elle ne soit pas au top. Tu vois, c'est toujours tout dans la rapidité, toujours tout dans la pression, toujours tout dans. Vas-y, il faut que je fasse pour me débarrasser de ça. Donc ça peut être des problèmes que ces personnes vont rencontrer. Et les problèmes des générations plus jeunes ou des jeunes mariés autour de la trentaine, ce sont aussi, pareil, des problèmes d'ordre mécanique. Des gens qui n'ont eu aucune éducation sexuelle, si ce n'est attention, rendez-vous, interdit, haram, chouma et compagnie. Tu vois, c'est ça. Et donc, quand ils se retrouvent mariés, ils ne savent pas comment faire. Alors, ça peut paraître dingue pour certaines personnes qui disent, mais c'est pas possible, enfin, on est en 2023, c'est pas possible que les gens n'aient pas ces informations, mais je vous assure que c'est du quotidien. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se disent, voilà, je me suis mariée, j'ai organisé une superbe fête, j'ai préparé un super appartement, mais je ne sais absolument pas comment se passe la vie intime, et donc, ou en tout cas, ils ont des croyances liées à la vie intime, et quand ils se marient, bien en fait, ça tient pas la route.
Ouais, tu parles de personnes qui mettent le couple, la vie de famille, comme quelque chose de sacré, mais qui savent pas trop comment gérer les choses. Puis ça va être les mêmes personnes aussi, parce que plus
Pas
tôt, au début
forcément.
d'interview.
Non, pas forcément. Enfin, j'ai souvent des jeunes couples, donc là, c'est vraiment autour de 25-30 ans,
Ouais.
qui se sont préservés jusqu'au mariage, soit les deux, soit un des deux.
Ouais.
Il y a aussi des hommes qui se préservent jusqu'au mariage, c'est important de le dire aussi, parce que on a tout le temps cette croyance de aujourd'hui, les hommes ont tous eu une vie sexuelle active avant le mariage, c'est faux. Alhamdoulilah, il y a des hommes qui ont cette valeur de la sexualité. Enfin, qui doit être préservé jusqu'au mariage. Donc, je le dis, je le redis et je l'écrirai s'il le faut. Et donc, ces personnes-là, elles sont parfois très amoureuses, très investies, elles ont par exemple, lu des livres sur le fonctionnement du couple, etc. Mais dans la vie intime, ils se sont dit, voilà, vu que tout va bien entre nous, vu qu'il y a de l'attirance, vu que ça match, vu qu'on se comprend, bah, ça devrait aller au niveau intime. Tu vois. Et d'ailleurs, ça, je l'ai vu. Quand j'ai sorti en janvier dernier ma formation qui s'appelle Le trousseau intime des mariés. Et là, en fait, il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit ça avant? Tu vois? C'était parfois des couples qui étaient mariés depuis plusieurs mois, même plusieurs années, qui regardent la formation ensemble. Donc, c'est vraiment une formation où il y a plusieurs vidéos où j'explique la santé sexuelle de manière très simple, en utilisant on va dire du matériel médical, là, tu vois, un bassin, vraiment pour que ce soit aussi un peu visuel. Et les gens me disent, mais en fait, c'est tellement simple, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas expliqué ça avant? Et là, on va revenir à une question que j'ai déjà développée plusieurs fois, c'est la question de l'éducation sexuelle. Comment est-ce que les gens sont préparés à la vie intime une fois mariés? On va voir
Ouais.
qu'il y a quasiment une préparation.
Ouais. T'as évoqué pas mal des problèmes qui ont lieu chez les jeunes, chez les moins jeunes. Est-ce que sinon tu as des problèmes, des grands problèmes autres que ça qui apparaissent régulièrement? Peut-être, je sais pas, pour que les auditeurs puissent savoir à peu près si, les auditrices, savoir si voilà, ils ont des choses qui sont liées à eux, peut-être qu'ils peuvent aussi peuvent régler.
Alors, on va dire par en termes de nombre, ce qui revient le plus, c'est les problèmes de désir dans le couple. La femme qui a jamais envie ou l'homme qui a jamais envie, on voit ça de plus en plus aujourd'hui. L'un ou l'autre qui n'a jamais envie d'avoir des moments intimes, ça c'est le premier problème. Le fait d'avoir des douleurs lors des moments intimes, sachant que plus les gens vont retarder la prise en charge, plus les douleurs vont s'installer, plus elles vont nécessiter du temps pour être réglées. D'accord? Ça, c'est important, c'est s'il y a des douleurs, ce n'est pas normal. Quand je parle de douleurs, c'est vraiment douleurs lors des moments intimes, lors des moments sexuels. Il faut consulter. Il ne faut pas se dire, ouais, c'est normal, je vais attendre quelques semaines, quelques mois. Non, on consulte. Ça se trouve, c'est juste du stress qui fait que si c'est chez la femme, ça se trouve, c'est juste du stress qui fait que la femme, bah, elle est très tendue et très crispée et que ça va faire des douleurs. Ça se trouve, c'est autre chose et il faut que ce soit pris en charge. Pareil, les problèmes d'éjaculation précoce chez l'homme, ça, c'est hyper tabou parce que ça touche à la virilité. Et il y a beaucoup de couples, en fait, qui vont rencontrer un problème d'éjaculation précoce, mais qui vont jamais le nommer, d'accord? Et ils vont consulter très tardivement pour ça, parce que c'est la honte, en fait. Comme je disais, ça touche à la virilité et donc c'est hyper gênant de venir dire, voilà, j'ai ce problème-là. Alors qu'en fait, on va voir que ça touche énormément d'hommes, surtout s'il y a eu, on va dire, une vie sexuelle active avant le mariage, s'il y a eu une pratique masturbatoire importante, s'il y a eu visionnage de pornographie
Ah ouais,
important.
tu lis ça à ça, tu relis
Très
les deux.
souvent, c'est lié. Ouais, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que hormonalement, on va dire, il y a une décharge hormonale qui arrive, une excitation trop importante, et donc le corps. L'excitation est tellement importante qu'il y a l'éjaculation arrive qu'elle ne peut pas être contrôlée. D'accord? Parfois, c'est des problèmes d'éjaculation précoce liés au fonctionnement du couple. Par exemple, je sais pas moi, une femme qui est ou un homme qui est très stressé, qui a un homme qui est sous pression, qui a un rythme de vie à 100 à l'heure, bah, même dans sa sexualité, il ne va pas s'autoriser à prendre le temps. D'accord? C'est pour ça aussi que quand je parlais de spiritualité, on vient souvent aussi parler de la notion de responsabilité et comment notre rythme de vie impacte notre vie intime. Le fait d'être tout le temps au travail, tout le temps sur son téléphone, tout le temps en activité, ça fait que le cerveau, en fait, il n'a jamais de moment de répit, il n'a jamais de moment où il va se reposer. Et donc, quand il y a un moment sexuel, la personne, elle est aussi sous tension. Et donc, quand je parle de spiritualité, c'est pas juste... Les actes cultuels dont on parle régulièrement. C'est vraiment cette question d'être juste dans notre temps, d'être équitable, de se remettre en question, d'être dans la gratitude. Tu as des gens qui vont tout le temps être dans la plainte, qui vont tout le temps être pessimistes, tout le temps dans une négativité. Bah, il y a peu de chances que leur vie intime, elle se passe bien. Un état d'esprit, en fait, subhanallah. Alors qu'une personne qui va bien, qui est d'humeur, on va dire, positive, qui relativise, qui laisse les problèmes extérieurs en dehors de son couple, justement, comme je le dis souvent, nous, on ne se marie pas pour le meilleur et pour le pire ensemble. On se marie pour le meilleur et ensemble face au pire. Tu vois, le pire, on ne doit pas se le faire subir l'un l'autre. Normalement, quand on met vraiment une distance avec... tous les autres problèmes, que ce soit des problèmes liés au travail, liés à nos familles, liés à nos amis, liés au voisinage, liés à... Voilà, peu importe ce que c'est, peu importe la cause, ben en fait, le couple va être un endroit où la personne, elle va venir se ressourcer, elle va venir se reposer. C'est pour ça que souvent, en consultation, je dessine un iceberg. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais mis aussi dans mon livre « Shooter Shoma », et ça a beaucoup parlé aux gens. Donc, c'est un iceberg où je dessine que la partie visible de l'iceberg, la partie qui flotte, enfin visible plutôt, c'est le problème sexuel. C'est ce avec quoi les gens viennent. Voilà, moi je viens parce que j'ai pas de désir. Et en fait, en thérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir voir la partie qui est sous l'eau. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui fait quelles sont les réelles causes au problème intime que vous voyez? Et donc, là, souvent, on va venir prendre du recul Et les personnes, elles vont vite comprendre que leur rythme de vie, des fois c'est leur choix de carrière, les problèmes qu'elles continuent on va dire de nourrir, les dysfonctionnements au niveau relationnel au sein du couple, en fait, impactent directement leur vie intime. Mais pour beaucoup de gens, moi je dis, tu vois, c'est le bouton on-off, tu vois. Il y a des gens qui se disent, voilà, on est dans un moment intime, hop, on éteint tout le reste et on allume l'intimité. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que la santé sexuelle, il y a plusieurs domaines, on va dire, à considérer, et c'est tout le but, en fait, de la sexothérapie, c'est de venir, on va dire, étudier ces domaines-là. Donc, pour revenir encore à ta question, Abdelrahman, les différents problèmes, il y a les problèmes de désir, les problèmes de plaisir, il y a des gens qui ont des moments intimes, mécaniquement, ça se passe bien, mais il n'y a pas de sensation agréable. Et là aussi, on va développer le fait que les croyants ont aussi le droit au plaisir, qu'on n'est pas dans cette notion de le plaisir, c'est péché. Tu vois, ça, c'est une notion judéo-chrétienne qu'il n'y a pas, en fait, en islam. Le plaisir, quand il est dans le cadre du mariage, il est même récompensé. Donc, ça, on va venir justement responsabiliser et l'homme et la femme sur le fait de rechercher ce plaisir-là. Pour bah, être épanoui, que ça vient créer on va dire un bien-être général. Donc je disais, chez les hommes, il y a les problèmes d'éjaculation précoce, il y a les problèmes d'érection. Donc généralement, on appelle ça les pannes sexuelles. Et là, souvent, les gens, quand ils vont venir pour une prescription. Voilà, est-ce que je peux avoir un traitement pour régler ce problème? Donc, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas urologue, donc je vais d'abord les inviter à faire un bilan médical pour exclure justement un problème de cet ordre-là. Donc, ça va être un examen physique, une prise de sang, souvent. Une fois que ça s'est exclu, et c'est très souvent exclu, en fait, on va travailler bah, l'image de soi, la confiance en soi, le respect dans le couple. Quand un homme, il ne se sent pas respecté dans son couple, il ne peut pas désirer sa femme. D'accord? Donc, ça aussi, on va voir que souvent le problème, il n'est pas là où on pense. Et que le problème intime n'est que l'expression d'un problème plus profond. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Et quand les gens ont un problème, ils veulent vite une solution, on va dire miracle, quelque chose, voilà, je veux une pilule à prendre et puis vite régler ça. Ça peut marcher sur du court terme, mais pas sur du long terme.
Non, ça fait sens. C'est vrai que en général, on apprend toutes ces choses quand on se marie, on commence à s'intéresser à ça. Enfin, je sais pas tout le monde, mais
En règle générale, oui.
la vie de couple et toutes les choses qui sont liées à la vie de couple, ça arrive assez tard. Et quand on se renseigne, on se rend compte qu'il y a tellement de facteurs en fait qui peuvent être pris en compte. Je t'en parlais la dernière fois. Ma femme me disait récemment que, enfin récemment, ça fait très longtemps, mais il y a des impacts même par rapport aux habits qu'on porte, le côté chimique, il peut avoir un impact par rapport à ton enfance, par rapport à ta relation avec ton entourage, par rapport à t'as tellement de choses en fait.
Exactement.
Comment toi tu peux faire pour t'as une sorte de process pour essayer d'éliminer, de trouver c'est quoi les
Ouais.
problèmes? Comment tu fais?
Bah, alhamdoulilah, c'est vrai qu'au fil des années, il y a l'expérience, en fait, ce qui fait que quand tu vas recevoir une personne, c'est pour ça aussi que je préfère de loin les consultations en présentiel que les consultations en ligne. Parce que, bah, voilà, on est des êtres. On a une énergie, tu vois, des fois tu veux aller quelque part, tu peux aller quelque part, tu connais personne et tu sais pas pourquoi il y a un frère que tu n'avais jamais vu et être à côté de lui, tu sens un apaisement, tu vois, tu sens une rahas. Tu sais pas expliquer comment, t'arrives pas à l'expliquer, mais peut-être que vous allez échanger juste quelques mots et puis tu vas dire, ouais, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, c'est vraiment agréable. Et peut-être que dans la même assemblée, il y a un autre frère qui va être là. Et tu vas dire, je sais pas pourquoi, mais celui-là, j'arrive pas à être avec lui, je sais pas, je le sens pas, je suis pas à l'aise. Et ça aussi, il y a une question d'énergie. Et on le voit, il y a des personnes qui ont une énergie très agréable, dont la compagnie est très agréable, et d'autres beaucoup moins. Et donc, quand tu reçois une personne, la manière dont elle va rentrer dans le cabinet, la manière dont elle va te regarder, la manière dont elle va exposer les faits, tout ça va faire que, ben, en fait, tu vas jongler entre les questions, en poser une plutôt qu'une autre. Et très souvent, bah, cette intuition qu'on développe au fil du temps, qui est en fait l'expérience, elle nous permet de gagner beaucoup de temps dans la prise en charge. tu vois. Et bah, parfois, c'est vraiment dès la première consultation, je vais mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et parfois, c'est bah, après quelques rendez-vous. Parce que voilà, y a rien à faire, il faut du temps, finalement, pour comprendre. Mais souvent, on va parler de l'enfance. Comment s'est passée l'enfance? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes? Ça aussi, malheureusement, dans beaucoup de familles, il y a des agressions sexuelles qui sont subies par les enfants et adolescents. Et on n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas, on fait taire, justement, ces agressions sexuelles. Et chez les garçons et chez les filles. D'accord? Parce que ça aussi, hein, on pense toujours que, un enfant violé, c'est forcément une petite fille avec un grand-père. Non, parfois, c'est deux frères entre eux. Parfois, c'est un garçon avec son oncle qui a presque le même âge. Parfois, c'est une fille avec une prof particulier. Donc, ça aussi, tu vois, il faut se défaire de ces images qu'on a concernant qui est agresseur et qui est victime, parce que nous sommes tous de potentielles victimes et tous de potentiels agresseurs. D'où le fait, de cette phrase-là, elle va peut-être choquer certains, tu vois, d'où le fait de toujours se responsabiliser, nous questionner, parler de la question du consentement, justement. Est-ce que je peux faire ça? Tu vois, par exemple, quand je dis on est des potentiels agresseurs, ça peut être, tu vois, je peux rendre visite à une amie et elle a un enfant et je vais venir de force prendre l'enfant pour lui faire un bisou. Tu vois, l'enfant, il peut vivre ça comme une agression. L'agression, comme je disais, elle n'est pas forcément le samedi soir dans une petite ruelle où il fait sombre. Hein. L'agression, elle peut être dans un salon rempli de personnes. Et ça aussi, c'est pour ça que ces questions-là, c'est fondamental de pouvoir les développer au sein de nos familles. Donc, je revenais sur la question des traumatismes. Par exemple, un chiffre par rapport au traumatisme. Il faut savoir que quand il y a une agression sexuelle, ça, c'est les chiffres d'Amnesty International, dans 9 cas sur 10, la victime connaît son agresseur. Tu vois, parce que ça aussi, il y a beaucoup de patientes et de patients qui me disent, moi, on m'a toujours dit, fais attention à l'étranger, fais attention aux gens que tu ne connais pas. On m'a jamais dit, fais attention à tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, ton père, le voisin. On m'a jamais dit ça. On m'a toujours dit, pour les patientes, bon, pour les femmes, on leur a toujours dit, fais attention aux hommes. On ne leur a jamais dit, par exemple, qu'il fallait faire attention aux femmes aussi, qu'une femme peut être aussi agresseur. Donc ça aussi, en thérapie, c'est ça, c'est fondamental de prendre le temps de parler de l'enfance de la personne. Parfois, ce ne sont pas des traumatismes sexuels. Parfois, ce sont des traumatismes qui touchent en fait à l'estime de la personne, c'est-à-dire des personnes qui, durant leur enfance, adolescence, ont été rabaissées, on s'est moqué d'elles, on les a dénigrées, on les a beaucoup comparées aux autres frères et sœurs, aux autres cousins, cousines.
Ouais,
Et
ou
ça, en
entre frères
fait,
et sœurs, voilà.
c'est un classique, hein, tu vois, regarde ton frère, il a fait de grandes études et pas toi. Ou bien, ah, ton frère, qu'est-ce que je l'aime. Mais tu vois, quand tu es enfant et que tu entends ça, ton cerveau, il comprend, ok, si elle l'aime lui, peut-être qu'elle ne m'aime pas moi. Et quand tu grandis avec cette.
Un manque affectif.
Donc là, c'est un manque, au-delà même du manque affectif, c'est que ça a détruit l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est une personne qui estime qu'elle n'a plus de valeur aujourd'hui. Et quand tu estimes que tu n'as plus de valeur, ça peut soit, on dirait ça très jeune, t'amener aussi à chercher à exister, même dans des comportements sexuels. Tu vas peut-être vouloir plaire, tu vas peut-être vouloir séduire, tu vas peut-être vouloir. Ton cerveau. Il est prêt à tout tant qu'il se sent existé et considéré. Donc, si cette considération, elle peut venir dans des relations sexuelles, eh ben on y va. Tu vois, on accepte. Parfois, c'est pas forcément avant le mariage. Parfois, c'est dans le cadre du mariage. Des personnes qui vont accepter des pratiques sexuelles juste parce qu'elles sentent qu'elles sont considérées dans cette sphère-là. Tu vois? Et donc ça aussi, ça c'est capital de parler de l'estime de soi et des différents types de confiance en soi quand on fait de la sexothérapie. C'est pour ça que je dis, en général, les gens, quand ils viennent me voir, je dis, voilà, si vous voulez une consultation miracle, où là, je vous dis, bim, bam, boum, fermez les yeux et je trouve la solution, c'est pas la peine, en fait. Ça va demander de discuter, de replonger dans des moments qui sont peut-être difficiles pour vous. Et ça aussi, même si aujourd'hui on est finalement une société qui a eu un boom d'outils de communication, les gens ont beaucoup de mal pour parler d'eux-mêmes. Tu vois, quand tu croises quelqu'un et tu dis ouais, ça va, en fait, tu t'en fiches que ça va ou ça va pas. C'est juste un ça va protocolaire. Tu vois? Donc les gens ne prennent pas le temps de se demander comment je vais? Depuis combien de temps est-ce que je vais pas bien? Ça, c'est en lien bah, avec la santé de manière générale, la santé spirituelle et la santé sexuelle. Donc,
Très
tu vois,
bien.
y a beaucoup, beaucoup à dire. On pourrait faire une interview sur juste comment se déroule une consultation, tu vois.
Ouais, c'est passionnant, c'est vachement intéressant. Et puis, ça, c'est des sujets vraiment importants d'un point de vue personnel et d'un point de vue du couple aussi. Et j'imagine aussi, ça a un impact aussi. Enfin, ça touche aussi aux enfants, ça touche à tout en fait. Donc, c'est vraiment central. On arrive bientôt à la fin, Zina. Peut-être, est-ce que tu as voilà, des conseils généraux aux auditeurs, aux auditrices, les questions qui peuvent se poser et aussi peut-être d'avoir peut-être des psychologues ou des gens qui travaillent dans le milieu du médical qui s'intéressent à ces sujets-là. Peut-être si tu as des conseils pour eux, s'ils veulent s'orienter aussi vers ce
Ouais.
domaine-là.
Alors ça que pour, bah, pour les médecins, les psys, les sages-femmes, je les inviterais vraiment à se former en sexologie pour justement avoir des prises en charge plus globales, ce qu'on appelle les prises en charge holistiques, parce que justement ça permet de, bah, de tout simplement mieux prendre en charge la personne dans sa globalité et d'intégrer cette composante intime. Par exemple, moi je suis tout le temps étonnée quand des personnes viennent en sexothérapie. Et qu'en parallèle, elles font une psychothérapie, des fois depuis plusieurs années, et que la vie intime n'a jamais été abordée. Tu vois? Ça aussi, je pense que il faut questionner ces pratiques-là. Tu vois, quand je parle de ces pratiques, les pratiques médicales et paramédicales, il faut les questionner parce que la composante sexuelle, elle est souvent mise de côté, alors qu'en fait, on va voir qu'elle a toute sa place. Donc ça, c'est un premier conseil pour les collègues, consoeurs, confrères. Dans ces différents domaines. Ensuite, pour les auditeurs, auditrices, monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire, voilà, peut-être même de juste prendre une feuille là maintenant, sauf si vous êtes en voiture, de prendre une feuille quand vous serez posé et de vous poser la question, voilà, comment est-ce que je vais et comment va ma santé sexuelle? Même pour les célibataires, hein, parce que ça aussi, hein, on ne doit pas parler de santé sexuelle uniquement quand on est marié, d'accord? Comment va ma santé sexuelle? Quel bagage en termes d'éducation sexuelle, est-ce que j'ai reçu? Quelles sont mes croyances liées à l'intimité? Est-ce que je connais une personne de confiance à qui je pourrais en parler? Et si vous sentez que vous avez besoin d'en parler, toquez à la porte, en fait. Allez-y. Il y a, alhamdoulilah, il y a de plus en plus de thérapeutes. Il y a du contenu sur Internet. Enfin, de mon côté, j'ai mon livre Chuteur Chauma qui est sorti il y a déjà 2 ans, qui a vraiment été pour beaucoup de personnes, une révélation. Ok, je connaissais pas tout ça et ça fait écho. Donc ça peut être, on va dire, une ressource. Il y a mon podcast, Intime Connexion, dans lequel justement je développe ces différents sujets autour de la santé sexuelle. Après, bah, il y a vraiment sur les réseaux, vous avez d'autres ressources. Pour les parents, il y a le livre de Amira Nassi, Les petits musulmans se posent aussi des questions liées à la sexualité. Qui est un très bon contenu. Il y a aussi les éditions, je pense, Zuriati, si je ne me trompe pas, qui a un livret, enfin, c'est un bon livret sur, qui s'appelle Ne touche pas à mes plumes, destiné aux parents et aux enfants, autour de ces sujets-là. Et avec mon collègue Oussama Jamal, donc, on a aussi tout un projet qui s'appelle Thérapeutique, dans lequel, justement, on organise des séminaires de préparation au mariage. Des séminaires aussi de questionnement autour du statut du célibataire, de la célibataire. On propose aussi des ateliers d'accompagnement pour savoir comment parler de sexualité avec nos enfants et adolescents. Donc,
Ok. Et
alhamdoulilah,
ça,
il y a de la
on
matière.
retrouve sur ton site.
Ouais, sur mon site, on trouve les informations.
Ton site, c'est...
Connaissance.be et connaissance avec un seul N. Et après, je pense qu'aussi tu demandes justement une ressource intéressante à partager et qui pourrait peut-être même intervenir dans ton podcast, c'est ça? Une dont j'aime beaucoup le travail, c'est d'ailleurs, je sais pas si elle est déjà intervenue chez toi, mais c'est Nadia de Conso Muslim.
Ouais, elle est déjà intervenue, ça y est.
Ah, zut, ouais, d'accord. Bon, bah écoute, je ne sais pas. Alors, je pensais vraiment à elle. C'est une amie aussi que j'apprécie fortement. J'aime beaucoup son travail. Donc, pour l'anecdote, on s'est connus à Bruxelles, elle aussi, parce qu'elle était à Bruxelles pendant un petit temps. Alors, sinon, à part elle, là, comme ça, De tête,
Bon, c'est pas grave, hein, tu pourras, c'est pas très important. Enfin, tu pourras, si tu as des noms qui te viennent, tu pourras me les partager, y a pas de
Très
souci.
bien, je te les partagerai, Inch'Allah.
En tout cas, je te remercie beaucoup, Zéna. Il y a quelques petites questions de fin quand même avant de terminer.
Ok.
Quelle est la compétence pour toi qui est la plus utile dans ton travail, dans ce travail-là?
L'intégrité. Si t'es pas. Pour moi, si t'as pas cette qualité-là, cette valeur-là, tu vas te causer du tort à toi et tu vas causer du tort aux autres.
C'est-à-dire
Être intègre, tu vois, vraiment dans le sens. Reconnaître ses limites, être juste dans ta position avec l'autre, ne pas te croire au-dessus, être humble aussi dans ta capacité à... Voilà, on est limité, on n'a pas la science
Ouais, connaître ses
infinie,
limites.
on ne peut pas tout prendre en charge, savoir dire justement je ne sais pas. Pour moi, tout ça, ça rentre dans l'intégrité. Dans le fait de vraiment respecter l'individu, les individus qui viennent demander notre accompagnement, et se rappeler aussi que ce qu'on a développé comme compétence, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, se recentrer et ne pas, on va dire, gonfler son ego. Et je pense vraiment qu'en tant que thérapeute, c'est essentiel que ça permet justement, je parlais d'être juste, ça permet d'être vraiment d'avoir cette justesse dans nos prises en charge qui font que bah en fait l'intégrité pour moi elle va être reliée à l'humilité.
Ouais, d'accord. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail?
Je m'ennuie pas en fait. Je m'ennuie pas, c'est-à-dire que pour un même problème, la prise en charge ne va pas forcément être identique. Il y aura différentes manières de l'amener, différentes manières de l'accompagner, parce que chaque individu
Stimulant.
a sa propre histoire. Et donc vraiment le fait que je m'ennuie pas et donc avec ça bah, c'est challengeant et c'est passionnant.
Très bien. Très bien. Que tu as, peut-être j'aurais pu la poser avant cette question, mais est-ce que tu as un conseil pratique pour les couples, un conseil pratique que tu trouves vraiment utile?
Bah, prenez soin de votre santé sexuelle en fait, ne la négligez pas, questionnez-vous individuellement et questionnez-vous aussi au niveau du couple. Moi je vois beaucoup de couples qui sont gênés de parler de ce sujet-là. Et donc l'homme, il reste avec ses questions, la femme, elle reste avec ses questions, et ils ne savent pas comment amener cette discussion finalement. Donc, par exemple, sur mon site, enfin, je pense que c'est sur Instagram, sur le petit Linktree, il y a un petit e-book que j'ai créé qui est téléchargeable, et ça peut être vraiment un bon support justement pour venir discuter de sa santé sexuelle au niveau du couple.
Est-ce que toi, tu as une routine régulière, peut-être quotidienne ou hebdomadaire, que tu maintiens et qui te permet de récupérer de l'énergie, de continuer, de progresser?
Ma sieste.
La sieste.
Vraiment, mon repos physique, il est essentiel. Donc, repos physique, c'est-à-dire, en général, j'essaie de ne pas dormir trop tard. Et au cabinet, je prends le temps de m'allonger pour vraiment me reposer. D'ailleurs, mes collègues diètes, elles disent souvent que les surrénales, elles ne se reposent que quand on est allongé. Donc, ça aussi, c'est une manière de prendre soin de son corps et du coup, bah, de prendre soin de sa santé mentale dans une certaine mesure. Et à côté de ça, c'est de beaucoup développer la gratitude. Pour moi, c'est vraiment du quotidien, alhamdoulilah, de remercier Allah pour ce que j'ai, même si voilà, il y a eu des moments, il y a eu des épreuves qui ont été difficiles, vraiment personnellement, et de me dire voilà que tout a un sens et que je le remercie vraiment pour le fait bah, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être mariée, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir un travail qui pour moi n'est pas un travail parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, qui me passionne plus que tout, le fait de vraiment pouvoir apprendre sans cesse. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne, de toujours être dans un apprentissage continu.
Ne pas rester sur ses acquis.
Exactement.
Et enfin, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton contenu, donc je pense sur Instagram, ton site internet, hein, et s'ils ont une question par rapport à ce podcast ou souhaitent te contacter, est-ce que c'est possible?
Ils peuvent me contacter sur Instagram ou via mon site internet.
D'accord.
J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Après, voilà, encore une fois, ça rejoint un peu la dernière question, c'est que au fil du temps, bah, tu t'apprends justement à mettre des limites dans ton travail,
Ouais.
à ne pas répondre tout le temps, tout le temps, tout le temps, peu importe l'heure. On a aussi une limite dans nos prises en charge. Et c'est frustrant hein, parfois d'entendre, enfin de lire du coup des limites des SOS, tu vois, de mon couple, on est au bord du divorce, il faut absolument que vous nous aidiez. C'est très frustrant de lire ces messages et de ne pas pouvoir prendre en charge parce que voilà, bah, j'ai un temps pour ma famille, j'ai un temps pour moi-même, j'ai un temps pour ma formation, etc. Et donc, se dire que même si on ne trouve pas une réponse chez un thérapeute, il y a forcément un autre thérapeute qui pourra nous écouter, Inch'Allah.
Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, Zina. C'était
Merci
une discussion vachement intéressante. Je suis très heureux d'avoir pu aborder le sujet de cette manière-là.
beaucoup.
Et bah, écoute, j'espère vraiment que dans cette profession-là va évoluer de plus en plus avec, de nombreuses consoeurs ou confrères qui pourront traiter de ces sujets-là. C'est comme tu le dis, comme on l'a évoqué, c'est des sujets hein, centraux dans la vie du musulman ou même de monsieur, madame, tout le monde. Hein. Et donc je te remercie pour ça et je demande à Jay qui te facilite ça pour la suite.
Amin Batlafik, merci à toi.
Bonne journée Zina, salam alaikum.
Merci. Alaykoum salam wa rahmatoullah.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt Inch'Allah, salam alaikum.